Radio Okapi.
Le journal Pascal Massirika.
À la une ce midi, l'UNICEF plaide pour la réouverture des écoles en RDC. Le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance affirme que la fermeture des écoles menace le développement, la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Le marché central de Kinshasa sera fermé à partir du 20 janvier prochain sur décision du gouverneur Gentili Ngobila. Les raisons avec la coordonnatrice de la cellule des communications du gouvernorat. Notre invité, c'est l'un des promoteurs des écoles privées de la ville de Kananga. Jean Asaka plaide pour la reprise des cours dans le respect des mesures barrières pour ne pas perturber le calendrier scolaire. Madame, Messieurs, bonjour. L'UNICEF plaide pour la réouverture des écoles en RDC. Il le dit dans un communiqué de presse rendu public ce jeudi à Kinshasa. Selon le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance, la fermeture des écoles menace directement le développement, la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Bien que la RDC enregistre une recrudescence de l'épidémie du coronavirus depuis quelques semaines, l'UNICEF appelle le gouvernement congolais à donner la priorité à la réouverture des écoles et à prendre toutes les mesures de prévention pour rendre les écoles aussi sûres que possible. Pelekipe Lamondo nous fait le résumé du dit communiqué de l'UNICEF.
Si les enfants sont exposés à une deuxième longue période de fermeture des écoles, les effets se feront sentir pendant plusieurs générations, indique le communiqué de l'UNICEF. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance rappelle cette déclaration d'Henrietta Fore, sa directrice générale, selon laquelle un nombre croissant d'études au niveau international indique que les écoles ne constituent pas les principaux moteurs de la propagation de la pandémie, mais que leur fermeture menace directement le développement, la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Pour l'UNICEF, la fermeture des écoles doit uniquement constituer une mesure de dernier recours après que toutes les autres possibilités ont été envisagées. Les décisions de fermeture d'écoles à l'échelle nationale doivent être évitées autant que possible. Selon Edouard Beybeder, représentant de l'UNICEF en RDC, aucun effort ne doit être ménagé pour rouvrir les écoles et s'assurer que les enfants apprennent à lire, à écrire et à réaliser des calculs de base tout en développant leurs connaissances. L'UNICEF réaffirme son engagement à continuer d'appuyer le gouvernement de la RDC pour assurer les droits à l'éducation de chaque enfant.
Merci Pelé Kipelamondo pour ces précisions. Et au Maniema, le projet d'éducation pour la qualité et la pertinence de l'enseignement secondaire et universitaire a organisé à Kindu un atelier de stratégie de formation des enseignants de l'apprentissage des sciences sur l'approche par situation. 27 participants aux assises, dont 12 enseignants de l'ISP et 15 de l'EPST, ont créé une synergie en vue d'une méthodologie susceptible de faciliter la compréhension des sciences aux apprenants. Des précisions avec le directeur de la province éducationnelle, Nestor Ntumbandaye, au micro de Florence Kizalunga.
D'après notre source, c'est dimanche.
Le niveau national nous a envoyé une formatrice qui est venue former le noyau provincial de 27 personnes dans les domaines de l'enseignement des matières de sciences qu'on appelle DAS, c'est-à-dire les professeurs qui s'occupent du domaine d'apprentissage des sciences. Alors, l'objectif poursuivi lors de cet atelier, c'était de créer cette énergie, cette approche pour que l'étudiant qui termine son ISP doit venir donner cours à l'école secondaire. Nous crions toujours la non-qualification des professeurs qui donnent cours au secondaire. Alors, l'étudiant qui termine l'ISP dans les domaines des sciences, mathématiques, physique, biologie, chimie, il ne doit pas être dépaysé quand il arrive au secondaire où il y a déjà eu des réformes de programmes. Il faut qu'on voit au niveau de l'ISP et comment rapprocher ces réformes de programmes au secondaire, et les étudiants qui terminent l'ISP doivent être déjà au courant, et bien comme ça, et on aura à bien travailler quand ils vont donner cours chez nous au secondaire. 3 jours, ça suffit pour le noyau provincial qu'on a créé.
Autre nouvelle en plus bref, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu hier mercredi dans la soirée à Kinshasa Moïse Katumbi Tshapwe d'Ensemble pour la République, Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC et Jean-Marc Kabunda Kabunda de l'UDPS. Bien que personne n'ait accepté de se confier à la presse sur les contenus de cet échange, certaines sources indiquent que les quatre personnalités se sont apesanties sur l'évaluation du chemin parcouru après la fin de la coalition FCC-K, la composition du prochain bureau de l'Assemblée nationale et la configuration future des équilibres au sein de la Chambre basse du Parlement. Autre nouvelle en plus bref, Jean-Pierre Bemba Gombo a assigné la RDC au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Selon notre consoeur actualité.cd, le président du MLC réclame des dommages et intérêts pour les préjudices subis suite à la destruction de sa villa de Maluku et du pillage de ses biens par des militaires lors de la guerre qui a suivi la proclamation des résultats de la présidentielle de 2006. À l'audience d'hier mercredi, les avocats de l'ancien vice-président de la République ont soutenu que la République démocratique du Congo est assignée en tant que civilement responsable pour les actes qui ont été posés par ses préposés conformément à l'article 260 du Code civil livre 3. Ils ont tenté de démontrer que les conditions de la responsabilité civile de la RDC pour les faits de ces militaires sont remplies, notamment le fait que ces éléments étaient sous les liens de la subordination de l'État congolais au moment des faits. De son côté, la défenderesse, la RDC, a nié en bloc toutes ces accusations en tentant de démontrer que les auteurs de ces destructions et pillages n'étaient pas sous son autorité et que les conditions n'étaient pas réunies pour que sa responsabilité soit engagée. Le marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, sera fermé au public et à toute activité à partir du 20 janvier prochain. La décision est prise par le gouverneur Jean Tiningo Bila. Quelles raisons justifient cette mesure et est-ce que c'est ce que va nous expliquer ici la coordonnatrice de la cellule des communications et presse du gouvernorat, Belize Okonda, est au micro d'Adolphine Ngoy.
Comment voulez-vous que le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Ngobilambaka, puisse prôner Kinshasa Bopeto tout en laissant l'espace de négoce important qu'est le grand marché, lieu touristique, dans un état d'insalubrité? Il est important, avec l'émergence que nous visons dans la ville de Kinshasa, que nous puissions quand même réhabiliter. Et une autre information de taille, la République démocratique du Congo accède à la présidence de l'Union africaine par le président de la République. Donc Kinshasa sera la capitale africaine qui va occasionner des arrivées de différentes personnalités d'autres pays.
Quelle est la durée des travaux qui vont être entamés d'ici le 20 janvier?
Une pilule amère, mais qui va faire du bien à la population, donc supporter le temps que ça pourra prendre, mais en tout cas, ça sera un délai raisonnable pour que nous puissions avoir un lieu de négoce qui fera la fierté de tout le pays.
Rappelons que le marché central de Kinshasa existe depuis 1971. Au mois d'avril 2020, les travaux d'assainissement avaient été entamés. Cette période avait coïncidé avec le confinement de la commune de la Gombe. Quatre marchés avaient été érigés dans les communes environnantes pour relocaliser les vendeurs. Au Sud Kivu, pendant ces temps, la Direction générale des migrations a restitué hier mercredi aux petits commerçants transfrontaliers de Bukavu leur somme de 27 180 dollars américains. Cet argent avait été saisi au mois de mai dernier sur un chauffeur qui voulait traverser la frontière Ruzizi Premier pour aller se ravitailler en marchandises au Rwanda voisin. Selon le président de l'association des petits commerçants transfrontaliers, ces derniers ont reconnu leur faute de traverser avec plus de 10 000 dollars américains. Gervais Mouloumé évoque toutefois la pandémie du coronavirus comme circonstance atténuante. Il convient de dire qu'il est conscient de la faveur accordée par les autorités car aucune pénalité n'a été perçue par la Banque centrale telle que le prévoit la loi. Il exhorte ses membres à ne plus traverser la frontière Ruzizi Premier avec un montant supérieur ou égal à 10 000 dollars américains. On l'écoute.
Comme les membres ne traversaient pas la frontière, on faisait les achats groupés, même les transports en groupage. Et lorsque maintenant les petits commerçants ici envoient leur argent au niveau des fournisseurs au Rwanda, on a donné ça auprès du chauffeur qui amène la marchandise. Et lorsqu'il est arrivé au niveau de la frontière, c'est à ce moment-là que les services de sécurité l'ont rattrapé. Ils ont constaté qu'il a un montant très élevé parce qu'il y avait des groupes de petits commerçants. Les petits commerçants vendeurs de viande avaient un montant équivalent à 16 180 dollars et les vendeurs de farine avaient une somme équivalent à 11 000 dollars. C'est dans ce sens que l'argent a été retrouvé aux mains des services. Le directeur de la banque nous a dit que c'est une grâce exceptionnelle qu'on nous a faite, qu'il nous recommande maintenant de sensibiliser nos membres de ne plus traverser avec le montant dépassant 10 000 dollars. Donc, avec 9 999 dollars, on peut franchir la frontière sans problème.
Notez que la plateforme des associations et coopératives de petits commerçants transfrontaliers de Bukavu adresse un message de félicitations en guise de reconnaissance au député national Olive Namegabemou de Kereza pour son plaidoyer auprès des instances de prise de décision. Plusieurs maisons sont écroulées dans les territoires de Kamina, Kabongo et Bukama dans la province du Olomami. C'est à la suite des fortes pluies qui s'abattent sur la région. D'après le président de la commission des dégâts et autres catastrophes naturelles à l'organe délibérant, de nombreux ménages sont sans abri et exposés à des maladies. Le député provincial Paul Senga a été joint par Jean Gandou.
Forte pluie diluvienne accompagnée des vents violents et des orages vient d'occasionner la mort d'une femme, mère de 6 enfants et 2 blessés graves. Des toitures emportées de plusieurs bâtiments scolaires ainsi que de l'Institut Louabo. Des églises jusqu'à la journée de ce mercredi soir, plusieurs centaines de maisons sont écroulées. Cette catastrophe vient de s'ajouter à celles qui se sont passées dans les territoires de Malembankoulou, Bukama et Kabongo. Plusieurs ménages se retrouvent sans abri. Ils passent la nuit à la belle étoile. Les enfants de moins de 5 ans sont exposés à des maladies. La population lance des cris de détresse au gouvernement central pour les interventions sociales et humanitaires urgentes. Nous, en tant qu'élus, nous plaidons aussi aux autorités d'intervenir en urgence pour sauver la vie humaine de plusieurs familles qui passent la nuit à la belle étoile. Elles sont exposées aux épidémies de maladies.
Et puis, depuis quelques jours, circulent sur les réseaux sociaux les images montrant 2 verres remplis d'eau. Dans le premier, on peut constater de l'eau claire venant de la pluie selon celui qui a posté ces images. Dans l'autre verre, de l'eau assez jaunâtre venant de la régie des eaux. Contacté à ces sujets, le directeur de communication intérimaire de la régie des eaux, Émile Losembe, a réagi. Un reportage d'Enoch Matondo.
La régie des eaux ne reconnaît pas cette eau présentée dans les réseaux sociaux, dit Émile Losambé, son directeur de communication.
Nous voulons dénoncer cette façon de procéder qui frise la pure machination pour nuire aux intérêts non seulement de l'entreprise de régie des eaux et ça, mais également aux intérêts vitaux de la population congolaise. La régie des eaux dessert son eau à travers le robinet qui sont disséminés dans les différentes parcelles de nos abonnés. Alors, prétendre avec un verre d'eau sur la table, avec de l'eau jaunâtre, et un autre verre avec de l'eau claire où on prétend que l'eau jaunâtre de l'eau de la régie des eaux, au nom des autorités de la régie des eaux, de l'ensemble des travailleurs de la régie des eaux, nous réfutons cela.
La régie des eaux traite bien son eau, a-t-il ajouté.
L'eau, c'est la vie. Mais nous ajoutons à la régie des eaux que l'eau potable produite par la régie des eaux, c'est la longue vie. Elle aide la personne qui la consomme à rallonger sa vie. Nous, à la régie des eaux, on n'y met pas de la rigolade. Nous mettons tous les sérieux possibles, que ce soit les autorités, les agents, pour fournir à la population une eau de qualité irréprochable. Au-delà des analyses qui sont faites en interne, il y a également des institutions de renommée internationale et nationale, respectables comme l'Office congolais de contrôle, qui analysent, n'est-ce pas, et contrôlent notre eau. Il y a d'autres institutions internationales, dont je ne veux pas citer le nom ici, qui contrôlent également la qualité de notre eau.
Émile Losambi profite de l'occasion pour appeler les abonnés à payer leurs factures.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, en Ituri, de nombreux Congolais installés en Ouganda sont retournés en RDC dans les territoires d'Arou et de Mahagi, mais aussi au chef-lieu de la province. Ils redoutent les violences pendant les élections présidentielles et législatives qui se déroulent aujourd'hui jeudi dans ce pays voisin. Le gouvernement de la RDC a également renforcé la sécurité depuis ce mercredi aux frontières avec l'Ouganda. Selon des sources sécuritaires, l'objectif est de parer à toute éventualité en cas de troubles pendant les déroulements de ces élections en Ouganda. À Bounia, Martial Kizabiamungu.
C'est depuis le début de cette semaine qu'il s'observe un renforcement des sécurités à la limite frontalière entre la RDC avec l'Ouganda. Même décor du côté de la frontière ougandaise où un dispositif militaire impressionnant est remarquable. Depuis ce jeudi matin, les Ougandais sont appelés au bureau des votes pour élire leur prochain président de la République. En course, 11 candidats dont le président sortant Yoweri Museveni et 10 autres de l'opposition avec en tête les chanteur populaire Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine. La campagne électorale a été émaillée de plusieurs scènes de violence à Kampala, la capitale ougandaise. Plusieurs familles de Congolais en majorité, des élèves et étudiants ont résolu de retourner au pays. Un parent qui s'est confié à Radio Kapi nous a déclaré, je cite, « La situation post-électorale en Ouganda ne rassure pas. C'est pourquoi j'ai ramené à Bounia mes 4 enfants qui étudient à l'université Makerere à Kampala pour les épargner d'éventuelles violences. » Fin de citation. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
On enchaîne avec le Nord Kivu où des affrontements sont signalés depuis 5 jours entre les FRDC et les combattants du groupe armé APCLS de Janvier Kalahiri. C'est dans le groupement de Bafuna, secteur Osso-Banyungu en territoire de Masisi. Le chef du secteur qui annonce la nouvelle dresse le bilan d'un civil déjà tué par balle et un déplacement massif des habitants de la zone. Bernardin Diambou.
D'après notre source, c'est dimanche dernier que les accrochages ont débuté au niveau de la localité de Kachopu, précisément dans le village Kishonja, situé à environ 15 km de Bukombo. Hier, mercredi tôt le matin, un civil habitant de Kachopu serait tué par balle. De même, des combattants APCLS seraient tués et blessés, renseigne notre source. Le chef de secteur de Osso-Banyungu s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire de plus en plus instable dans la zone. Les combats se sont encore poursuivis ce matin. D'autres affrontements se sont déroulés à Burubi, colline surplombant la cité de Niabiondo. Ces différents combats ont occasionné un déplacement massif de population dans le camp des déplacés de Bukombo et Luachi, alors que la situation humanitaire des déplacés reste précaire. Cette situation inquiète de plus en plus la population qui ne jure que sur le retour de la paix et la stabilité dans la zone longtemps secouée par l'insécurité. Contacter les porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 au Nord Kivu confirme l'information. Major Njike Kaiko promet d'autres détails sur ces hostilités dans les heures qui suivent. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Ouganda, les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi matin pour les élections générales après une campagne tendue pour la présidentielle. Yoweri Museveni Kaguta brigue un 6e mandat face à 10 autres candidats, dont le plus populaire, le député et ancien chanteur Bobi Wine. En République centrafricaine, Bangui a été attaqué hier mercredi après-midi par la coalition CP, une rébellion formée à la mi-décembre. Les assaillants ont entamé hier une descente vers la capitale du pays pour empêcher le déroulement du processus électoral et prendre la capitale. Ils en ont été empêchés par la MINUSCA. Les autorités du pays ont dénoncé la volonté de renverser le régime en place. Aux États-Unis, une majorité d'élus de la Chambre de représentants a voté ce mercredi après-midi la mise en accusation formelle de Donald Trump pour avoir incité il y a une semaine aux violences du Capitole, ouvrant ainsi la voie à un deuxième procès historique du président. En même temps qu'il s'apprête à quitter la Maison Blanche, Donald Trump entre ainsi dans l'histoire par une porte peu glorieuse. Il devient ainsi le premier président américain à être mis en accusation une deuxième fois par le Congrès.
L'invité.
La RDC, les élèves du primaire et secondaire poursuivent les vacances de Noël. Cela inquiète l'un des promoteurs des écoles privées de la ville de Kananga. Jean Asaka plaide ainsi pour la reprise des cours dans le respect des mesures barrières pour ne pas perturber le calendrier scolaire. Il s'entretient à ce sujet avec Blaise Nogalamayanda.
Bonjour, monsieur Jean Asaka.
Bonjour, monsieur Blaise.
Les vacances se prolongent, vous êtes opérateur dans les secteurs de l'éducation à Kanaga. Quelle analyse portez-vous sur cette mesure?
Je me dis que c'est un coup fatal qu'on a apporté à notre système éducatif parce que nous rendons de plus en plus compte que tous les secteurs de la vie dans notre pays fonctionnent normalement, excepté le secteur de l'enseignement. Or, c'est ce secteur-là qui devait être protégé comme nous le voyons partout ailleurs. Même là où les gens meurent tous les jours, c'est-à-dire en France, si vous allez en France aujourd'hui, le comité de riposte essaye de faire quelque chose avec le gouvernement pour que les enfants étudient dans les meilleures conditions parce qu'on ne peut pas bâcler toute une génération. Vous savez, la jeunesse, c'est notre avenir de demain. Et là, nous nous disons que ce n'est pas possible. Nous n'allons pas laisser nos enfants éternellement à la maison parce qu'il y a coronavirus. D'ailleurs, le chef de l'État nous a dit la fois passée que nous devons essayer avec les mesures barrières de vivre avec cette maladie qui ne doit pas nous quitter tout de suite parce que coronavirus, bien sûr, est là, mais coronavirus, peut-être c'est après une année, c'est après deux ans. Est-ce que c'est pendant tout ce temps-là que les enfants seront à la maison? J'ai dit non. Donc voilà le problème.
Certains acteurs aussi craignent que les écoles deviennent les foyers de contamination de cette pandémie. Qu'en dites-vous?
C'est pas parce qu'on crie coronavirus partout que nous devons faire du copier-coller. Il est vrai que coronavirus existe partout dans le monde entier, mais je pense que si M. Muyembe, avec son équipe, devait traiter le cas de cette maladie dans notre pays au cas par cas, c'est ce qui est fait même en France, même aux États-Unis, partout, pour couper la chaîne de contamination, on n'a pas besoin de freiner le secteur éducatif. Par contre, nous savons que cette maladie nous est importée, et donc je ne vois pas pour une maladie qui est importée, on doit fermer le système éducatif. Il devait, d'après mon analyse, essayer de suspendre les vols internationaux parce que c'est dans ces avions-là qu'on nous amène coronavirus. Pour une durée indéterminée, suspendre aussi les vols domestiques pour éviter cette chaîne-là de contamination et tracer les cas de coronavirus, les cas contacts, et faire aussi le dépistage au niveau de chaque foyer, parce que nous avons le foyer qui est à Kinshasa, il y a un autre foyer qui est au Katanga, il y a un autre foyer qui est au Nord Kivu, et là-bas, là où il y a le foyer déclaré, faire des dépistages massifs et isoler les malades.
C'est comme si vous doutiez de la stratégie mise en place par les comités nationaux de pilotage de lutte contre le coronavirus.
Monsieur Muyembe a déjà prouvé beaucoup de choses dans ce pays que nous ne pouvons pas oublier. Et il doit peut-être laisser ce travail à d'autres experts qui sont bien expérimentés que lui pour essayer de voir ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui où je vous parle, à Kinshasa, tous les secteurs de vie fonctionnent. Et au niveau de l'Assemblée nationale, les députés y siègent. Et on se demande, pour un enfant qui regarde à la télévision, plus de 300, 400 députés dans une salle, ils sont en train de siéger. Et là-bas, le coronavirus ne circule pas. Est-ce que M. Muyembe pouvait nous dire, par exemple, pour les enfants qui sont en Luisa, pour les enfants qui sont à Kakenge, pour les enfants qui sont en Demba ou à Kanyabayong, ou même à Massimanimba, est-ce qu'il est allé dépister là-bas pour savoir qu'il y a un foyer de coronavirus quelque part pour demander à ces enfants-là de rester chez eux à la maison et de ne pas étudier? Je pense non. Tous les enfants de la République démocratique, ils sont très nombreux, ces enfants qui restent à la maison, pour rien. Donc moi, je pense que M. Muyembe pouvait examiner au cas par cas, pour chaque province, pour chaque ville, pour chaque zone, et essayer d'avoir des mesures appropriées pour éviter que ces enfants qui ont déjà perdu l'année passée, et ces enfants, ils sont en train de perdre une autre année, donc ça va faire deux ans. Et ça, je pense que c'est une façon d'assassiner le système éducatif congolais.
Vous êtes opérateur éducatif. Qu'est-ce que vous proposerez, vous, que les élèves ne soient pas exposés à cette maladie tout en reprenant les classes?
Au niveau des universités, au niveau des écoles, nous avons la possibilité de faire respecter ces mesures parce que les enfants, même s'il n'y a pas la distanciation, mais ils doivent avoir des masques. On devait d'abord faire des dépistages et savoir que dans telle ville, il y a un foyer de coronavirus. Et dès qu'on le sait maintenant, on doit maintenant isoler les gens là qui sont malades et essayer de les soigner. Et c'est comme ça qu'on doit couper la chaîne de contamination. Mais la chaîne de contamination ne doit pas se couper seulement quand on ferme les écoles. Là, je pense que je ne suis pas d'accord avec M. Muyembe.
Monsieur Jean Saka, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
L'invité de Radio Okapi ce midi, c'était Jean Asaka, l'un des promoteurs des écoles privées de la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Il était interrogé par Blaise Ndongala Mayanda et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.